1905. Même en 1959, Odetta aurait eu toute latitude de ne se déplacer qu'en limousine, même si à l'époque son père était toujours de ce monde et qu'elle n'était pas aussi fabuleusement riche qu'elle allait le devenir à sa mort en 1962. Elle avait depuis son 25e anniversaire la libre disposition de l'argent placé pour elle et pouvait faire à peu près ce qu'elle voulait. Mais elle n'appréciait guère l'expression « la gauche limousine » forgée un an ou deux auparavant par un journaliste conservateur, et se sentait assez jeune pour refuser d'être vue sous cet angle, même si elle n'était pas autre chose. Pas assez jeune, ou assez bête en revanche, pour s'imaginer que quelques paires de jeans délavés et les chemises kaki qu'elle portait d'habitude changeaient en quoi que ce fût son statut fondamental, ni pour prendre le bus ou le métro alors qu'elle aurait pu aller n'importe où en voiture, mais assez égocentrique pour ne pas remarquer le profond désarroi d'Andrew, sa souffrance. Elle lui vouait une grande affection et prenait pour lui ce refus de ses services. Mais assez jeune pour croire encore qu'un tel geste pouvait vaincre, ou du moins renverser la réalité. Ce geste, elle allait le payer au soir du 19 août 1959, le payer d'une moitié de ses jambes et d'une moitié de son cerveau. 6. Odetta s'était d'abord sentie sollicitée, puis tirée, puis franchement emportée par la foule qui devait naître et finalement se transformer en raz-de-marée. En 1957, quand elle s'y était vraiment jetée, ce qui allait passer à la postérité comme « le mouvement » n'avait pas encore de nom. Elle en connaissait à peu près les origines, savait que le combat pour l'égalité remontait plus loin que l'émancipation, presque au débarquement de la première cargaison de bois d'ébène sur le sol américain, en Géorgie, pour être précis, colonie fondée par les Anglais pour se débarrasser de leurs assassins et de leurs insolvables. Mais tout lui semblait toujours avoir pris naissance dans un même cadre, sur les mêmes mots. Je ne bougerai pas. Le cadre, un autobus, à Montgomery, dans l'Alabama. Les mots prononcés par une femme de couleur du nom de Rosalie Park. Et l'endroit dont Rosalie Park ne voulait pas bouger était l'avant du véhicule, l'arrière étant bien sûr censé être réservé aux moricauds. Beaucoup plus tard, Odetta chanterait avec tous les autres « On ne nous fera pas bouger ». Et toujours, elle penserait à Rosalie Park, jamais ne pourrait entonner cet hymne sans un sentiment de honte. C'était si simple de dire « nous ». Les bras soudés à ceux d'une foule entière, si simple, même quand on n'avait pas de jambes. Si simple de dire « nous », si simple de l'être. Il n'y avait pas eu de « nous » dans ce bus qui devait puer le vieux cuir et des années d'imprégnation par la fumée des cigares et des cigarettes, avec ses pancartes incurvées couvertes de réclames du genre « Lucky Strike »,« LSMFT »,« Choisissez votre église mais allez-y pour l'amour du ciel », »,« Le matin, Ovaltine » et « Bonjour la bonne mine », »,« Chesterfield »,« 21 grands tabacs pour 20 grands moments de détente ». Pas de « nous » sous les regards incrédules du conducteur et des blancs au milieu desquels Rosalie Park était assise, sous les regards non moins incrédules de ses frères et sœurs de couleur assis au fond. Pas de « nous », pas de milliers d'autres pour marcher tous ensemble. Rien que Rosalie Park pour déclencher un raz-de-marée par ces quatre mots. « Je ne bougerai pas ». Odetta pensait « si je pouvais faire quelque chose comme ça ». Si je pouvais avoir ce courage, je crois que je serais heureuse jusqu'à la fin de mes jours. Mais cette sorte de courage n'est pas de mon ressort. La lecture du fait divers n'avait d'abord suscité chez elle qu'un intérêt minime. C'était venu peu à peu. Difficile de préciser quand et comment son imagination avait été touchée puis embrasée par cet anodin frisson avant-coureur du séisme racial qui allait secouer le Sud. Un an plus tard environ, un jeune homme qu'elle fréquentait avec une certaine constance l'avait emmené dans un endroit de Greenwich Village où certains des jeunes folk singers blancs dans l'ensemble qui s'y produisaient venaient d'ajouter quelques nouvelles et surprenantes chansons à leur répertoire. Brusquement, en sus de toutes ces vieilles rengaines sur la façon dont John Henry avait pris son manteau et forgé ses pièces plus vite que le nouveau marteau-pilon à vapeur de l'usine, y perdant la vie, se faisant « Oh mon Dieu, et dont Barbary Allen avait cruellement éconduit son soupirant mort d'amour, et finit par en mourir de honte. « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Voilà qu'il se mettait à raconter l'effet que ça faisait d'essayer de survivre en ville dans le 36e dessous, rejeté, ignoré. L'effet que ça faisait de se voir refuser un boulot dans vos cordes parce qu'on n'avait pas la bonne couleur de peau, et l'effet que ça faisait d'être traîné en tôle et fouetté par Monsieur Charlie pour la simple raison qu'on avait osé, oh mon Dieu, s'asseoir du côté réservé aux blancs du comptoir de la cafétéria du supermarché de Montgomery en Alabama. Incroyable ou non, ce fut alors, et seulement alors, qu'elle commença à se poser des questions sur ses parents, et sur les parents de leurs parents. Elle ne lirait jamais Racine. Serait passée dans un autre monde, dans un autre temps, bien avant qu'Alex Haley n'en ait écrit une ligne, voire n'en ait eu l'idée. Mais ce fut à cette époque incroyablement tardive dans son existence que, pour la première fois, se fit jour en elle l'idée que, quelques générations en arrière, ses ancêtres avaient été chargés de chaînes par les Blancs. À coup sûr, il s'agissait d'un fait qu'elle avait déjà croisé, mais comme une simple donnée historique sans chaleur, sans substance, une sorte d'équation, rien qui eût un rapport intime avec sa vie. Odetta récapitula ce qu'elle savait et fut consternée d'en avoir si vite fait le tour. Elle savait que sa mère était née à Odetta, bourg de l'Arkansas, dont elle avait hérité son prénom, que son père, dentiste dans une petite ville, avait inventé un nouveau type de couronne dont le brevet avait dormi 10 ans au fond d'un tiroir avant de faire soudain sa modeste fortune qu'il avait, durant ces 10 ans et dans les 4 qui avaient suivi la brusque augmentation de ses revenus, mis au point bon nombre d'autres inventions touchant à la dentisterie, tant restauratrice qu'esthétique, et que, peu de temps après avoir déménagé à New York avec son épouse et sa fille, laquelle était née 4 ans après le dépôt du brevet initial, il avait fondé une société, les laboratoires dentaires Holmes, qui était aux dents ce que Squibb était aux antibiotiques. Mais chaque fois qu'elle lui demanda quelle avait été sa vie, tout au long de ces années d'avant la réussite, tant de celles qui avaient précédé la naissance de sa fille que de celles qu'il avait suivies, ce fut pour n'en rien tirer. Il lui racontait toutes sortes de choses en s'arrangeant pour ne rien lui dire. Il lui refusait l'accès à cette part de lui. Un soir, la mère d'Odetta, Alice, il l'appelait maman, parfois Ali, pour peu qu'il ait un petit coup dans le nez, avait lancé « Dan, raconte-lui quand ces types t'ont tiré dessus alors que tu passais sur le pont couvert avec la Ford. » Et Odetta l'avait vu décocher à sa maman, qui avait quelque chose d'une hirondelle, un regard si sombre, si péremptoire, que maman s'était recroquevillée dans son fauteuil et n'avait plus rien dit. À la suite de quoi, elle avait une ou deux fois profité de ce qu'elle était seule avec sa mère pour l'interroger et tenter d'en savoir plus. Sans résultat. Y eût-elle pensé, avant qu'elle en eût éventuellement pu tirer quelque chose, mais comme papa n'avait pas voulu parler, maman s'y était également refusée. Aux yeux de son père, comprit-elle, le passé, la famille, les chemins de terre rouge, les boutiques, les masures dont le sol en terre battue rimait avec l'absence de vitres aux fenêtres, de fenêtres déshonorées de ne saluer que d'un seul rideau, les enfants des voisins allant vêtus de blouses taillées dans des sacs de farine, tout cela était pour lui enfoui comme de vilaines dents dévitalisées sous l'éblouissante et blanche perfection des couronnes. Il ne voulait pas en parler, ne le pouvait pas peut-être, s'était peut-être volontairement affligé d'une amnésie sélective. La prothèse dentaire était toute leur vie dans la résidence Graymall sur Central Park South. Le reste était entièrement caché sous l'inattaquable couronne en porcelaine. Un passé si bien protégé qu'il n'existait nulle brèche pour s'y glisser, franchir la barrière de cette denture impeccablement revêtue et plonger dans la gorge de la révélation. Detta savait des choses. Mais Detta ne savait pas qu'Odetta existait, pas plus qu'Odetta ne soupçonnait l'existence de Detta. Et là encore, les dents serrées opposaient un obstacle aussi lisse et inviolable que la porte d'un fortin. Elle avait en elle un peu de la timidité de sa mère associée à l'impassible, encore que muette, ténacité de son père. Et la seule fois où elle avait osé le poursuivre dans ses retranchements, lui suggérer que ce qu'il lui refusait était en fait une confiance qu'elle estimait méritée. La scène s'était déroulée un soir dans la bibliothèque paternelle. Il avait soigneusement regroupé les pages de son Wall Street Journal avant de le fermer, de le plier et de le poser à l'écart sur la table de bois blanc à côté du lampadaire. Ensuite, il avait ôté ses lunettes à monture d'acier qui avaient rejoint le journal. Puis, il l'avait regardé, mince homme de race noire, d'une minceur presque aux limites du décharné, des cheveux gris et crépus qui, désormais, dégarnissaient de plus en plus les tempes, des tempes qui se creusaient tandis que l'on y voyait palpiter avec régularité les tendres ressorts de montre de ses veines, et il lui avait seulement dit « Je ne parle jamais de cette période de ma vie, Odetta, pas plus que je n'y pense. Ce serait inutile. Le monde a changé depuis. » Roland aurait compris. 7. Quand Roland ouvrit la porte où étaient inscrits les mots « La Dame d'Ombre », il vit des choses qu'il ne comprit pas du tout, mais comprit qu'elles n'avaient aucune importance. C'était le monde d'Eddie Dean, mais cela mis à part, ce n'était qu'un tohu-bohu de lumière, de gens et d'objets. Plus d'objets qu'il n'en avait jamais vu de sa vie. Des articles pour dames, à ce qu'il semblait, et apparemment à vendre. Certains sous vitrine, d'autres disposés ou s'offrant en piles tentantes, rien n'ayant plus d'importance que le mouvement qui faisait couler ce monde par-delà les bords de l'ouverture devant laquelle Eddie et lui se tenaient. Car cette porte ouvrait sur les yeux de la Dame d'Ombre, des yeux par lesquels il regardait ce monde comme il avait regardé l'intérieur de la diligence du ciel par les yeux d'Eddie, tandis qu'il remontait le couloir central. Eddie, par ailleurs, était sidéré. Dans sa main, le revolver tremblait, penché un peu. Roland aurait pu en profiter pour le lui reprendre, mais n'en fit rien, se contentant de rester là, debout, sans rien dire, tactique éprouvée au fil des années. Voilà que maintenant, la vue effectuait un de ces virages que le pistolero trouvait si étourdissant, mais ce soudain balayage latéral de la scène eut sur Eddie un effet étrangement rassurant. Roland n'avait jamais été au cinéma. Eddie, lui, avait vu des milliers de films, et ce qu'il avait sous les yeux était l'un de ces travelling avant comme on en faisait dans Halloween ou dans Shining. Il connaissait même le nom du gadget dont on se servait pour faire ça, un Steadicam. « Et aussi dans la guerre des étoiles, » murmura-t-il. « Sur l'étoile de la mort, dans cette putain de crevasse, tu te rappelles ?» Roland le regarda et ne dit rien. Des mains très brunes, s'inscrivirent dans ce que Roland voyait comme la découpe d'une porte et qu'Eddie déjà commençait à considérer comme une espèce d'écran magique, un écran de cinéma dans lequel on pouvait entrer pour peu que certaines conditions fussent respectées, comme le type dans la rose pourpre du Caire sortait de cet autre écran pour entrer dans le monde réel. Putain de film. Eddie ne s'était pas rendu compte jusqu'alors à quel point c'était un putain de film. Sauf qu'il n'avait pas encore été tourné de l'autre côté de cette porte par laquelle plongeaient maintenant ses regards. C'était New York, d'accord. Les klaxons des taxis, si assourdis, si lointains fussent-ils, ne laissaient aucun doute. Et c'était un grand magasin dans lequel un jour ou un autre, il avait mis les pieds. Mais c'était... C'est plus vieux, dit-il entre ses dents. D'avant ton camp ? Demanda le pistolero. Eddie le regarda et eut un rire bref. « Ouais, tu peux décrire ça comme ça, si tu veux. »« Bonjour, mademoiselle Walker, » fit une voix hésitante. Dans un mouvement si brutal qu'Eddie même en fut vaguement étourdi, l'ouverture remonta et cadra une vendeuse qui, de toute évidence, connaissait la propriétaire des mains noires, la connaissait et soit ne l'aimait pas, soit la craignait, ou les deux. « Que puis-je pour vous ?» Celui-ci, la propriétaire des mains, prit un foulard blanc à bordure bleu vif. « Pas la peine de faire un paquet, mon petit. Fourrez-le juste dans un sachet. Liquide ou liquide ? N'est-ce pas toujours en liquide ? Si, mademoiselle Walker. Très bien. Votre approbation me va droit au cœur, mon chou. Juste avant qu'elle ne se détournât, Eddie surprit une petite grimace sur les traits de la vendeuse. Réaction peut-être consécutive à la façon dont cette femme qu'elle considérait comme une négresse arrogante lui avait adressé la parole. Ce furent davantage ses fréquents séjours dans les salles obscures que toute autre forme plus classique de culture historique, ou bien encore son expérience de la vie courante, qui amenèrent le jeune homme à cette explication des choses. Parce que c'était un peu comme de voir un film tourné dans les années 1960, quelque chose du genre de « Dans la chaleur de la nuit », avec Sidney Steiger et Rod Poitier. Mais l'hypothèse pouvait être encore plus simple. Noire ou blanche, la dame d'ombre de Roland pouvait bien être une sacrée salope. À vrai dire, ça n'avait aucune espèce d'importance. Rien de tout ça ne changeait quoi que ce soit. Il ne voyait qu'une chose, une seule chose, et qui réglait tout. C'était New York. Il avait presque l'impression d'en sentir l'odeur. Or, qui disait New York, disait poudre. Et il n'était pas loin d'en sentir également l'odeur flotter dans l'air. Mais il y avait un hic. Un seul et putain d'enculé d'énorme hic. 8. Roland posa sur Eddie un regard attentif, et bien qu'ayant eu 6 fois le temps de le tuer, et ce à n'importe quel moment de son choix, s'en tint à sa décision de rester immobile et silencieux, de laisser au jeune homme le soin de tirer seul au clair la situation. Eddie était un tas de choses, et bon nombre de ces choses n'avaient rien de chouette. En tant qu'homme qui avait laissé en connaissance de cause un gosse faire une chute mortelle, le pistolero mesurait la différence entre chouette et pas tout à fait bien. Mais, à coup sûr, Eddie n'était pas idiot. C'était un gamin futé. Il finirait par voir ce qu'il en était. Ce qu'il fit. Eddie répondit au regard de Roland, sourit sans écarter les lèvres, fit maladroitement tourner le revolver sur son doigt, parodiant la coda virtueuse d'un tireur de foire, puis le rendit au pistolero en le tenant par le canon. Pour ce que ça m'aurait servi, j'aurais aussi bien pu avoir un paquet de merde dans la main, non ? Tu es capable de sortir des choses intelligentes quand tu veux, Eddie, songea le pistolero. Pourquoi choisis-tu si souvent de dire n'importe quoi ? Est-ce parce que tu crois que c'est ainsi qu'on parlait là où ton frère est allé avec ses armes ? Non ? Répéta Eddie. Roland acquiesça d'un signe. Si je t'avais collé un pruneau, qu'est-ce qui serait arrivé à la porte ? J'en sais rien. Je suppose que la seule manière de l'apprendre serait d'essayer. Tu n'as vraiment pas une petite idée de ce qui se passerait ? Elle disparaîtrait, je pense. Eddie hocha la tête. Il partageait cet avis. Hop, comme par enchantement. Attention, mesdames et messieurs, c'est là, vous pouvez le constater. Eh ben non, regardez, ça n'est plus là. Fondamentalement, il n'y aurait pas eu une grande différence avec un projectionniste sortant un 6 coups pour farcir de balles son projecteur. Si on tirait dans un projecteur, le film s'arrêtait. Eddie n'y tenait pas. Il voulait en avoir pour son argent.
« Tu as donc la possibilité de franchir seul cette porte ?» dit-il en détachant ses mots.
« Oui. Enfin, pour ainsi dire. »« Oui. De te pointer dans sa tête comme tu t'es pointé dans la mienne ?»« Oui.
Je résume. Tu peux faire du stop dans mon monde, mais c'est tout. »
Cette fois, Roland s'abstint de répondre. Faire du stop était l'une de ces expressions qu'employait parfois Eddie et dont le sens exact lui échappait, bien qu'il vît à peu près ce qu'elle voulait dire.
Toutefois, tu pourrais être en mesure d'y aller physiquement, comme tu as fait chez Balazar.
Il parlait tout haut, mais se parlait en fait à lui-même.
Sauf que pour ça, tu aurais besoin de moi.
Oui. « Alors emmène-moi. »
Le pistolero ouvrit la bouche pour répondre, mais déjà Eddie poursuivait.
« Non, pas tout de suite. L'idée ne m'a même pas effleuré de le faire maintenant. Je sais très bien qu'il en résulterait une émeute ou je ne sais quelle merde si on déboulait comme ça de nulle part. Il éclata d'un rire bref, passablement hystérique. Comme des lapins qu'un illusionniste ferait sortir de son chapeau, et sans chapeau par-dessus le marché. Ouais, c'est sûr que maintenant c'est impossible. Je le comprends. Mais il suffirait d'attendre qu'elle soit seule et... Non. Mais je reviendrai, s'écria Eddie. Je te le jure, Roland. Je sais que t'as un boulot à faire et je suis conscient d'avoir un rôle à jouer. Je sais que tu m'as soumis la mise pour le passage de la douane, mais j'estime avoir sauvé la tienne chez Balazar. Cela dit, je sais pas ce que tu en penses.
J'en pense que tu m'as effectivement sauvé la mise.
Roland revit le jeune homme sortir au mépris de sa propre vie de derrière le bureau. Un instant, il fut assailli par le doute, mais rien qu'un instant.
Alors, enchaîna Eddie, un prêté pour un rendu? Chacun son tour?
Je ne suis pas gourmand. Tout ce que je veux, c'est retourner là-bas quelques heures. Mettre la main sur du poulet à emporter, peut-être sur un paquet de Dunkin' Donuts.
Il se tourna vers la porte où le décor s'était remis en mouvement.
Alors, qu'est-ce que tu décides?
C'est toujours non, répondit le pistolero. Bien que depuis quelques secondes, le jeune homme fût presque entièrement sorti de ses pensées. Cette manière de remonter l'allée, la dame d'ombre, qui qu'elle fût, ne se déplaçait pas comme tout un chacun. Pas comme Eddie, par exemple, s'était déplacé quand il avait occupé son esprit et partagé ses yeux, ni, à présent qu'il s'attardait à y réfléchir, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, de même qu'il ne s'était jamais attardé à remarquer la constante présence de son nez sur la frontière inférieure de son champ de vision, comme lui-même se déplaçait. Quand on marchait, le corps s'animait d'un léger mouvement de bascule, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, qui imprimait une oscillation similaire à votre regard sur le monde alentour, mais sur un mode si subtil qu'au bout d'un moment, presque aussitôt après s'être mis en route, supposait-il, on cessait purement et simplement d'y être sensible. Or, il n'y avait rien de pendulaire dans la progression de la dame. Elle ne faisait que remonter l'allée d'un mouvement uniforme, comme guidée par des rails. Il se trouvait qu'Eddie avait eu la même perception, à ceci près qu'elle lui avait évoqué un travelling. Elle l'avait rassuré parce qu'il l'avait trouvée familière. Pour Roland, c'était une sensation radicalement étrangère. Mais la voix suraiguë, Eddie l'interrompit dans ses pensées.
« Pourquoi pas? Merde! Pourquoi pas? »
« Parce que c'est pas du poulet que tu veux. Je le sais. Je connais même jusqu'au mot que tu emploies pour en parler, Eddie. Tu veux te faire un fixe. Tu veux te recharger. »«
Et alors ?»
hurla Eddie.
Même si c'est pour ça, qu'est-ce que ça change? J'ai dit que je reviendrai, ici, avec toi. Tu as ma parole. Je dis pas ça en l'air. Tu as ma putain de parole. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu veux que je te le jure sur ma mère? Ok, je te le jure sur ma mère. Tu veux que je te le jure sur mon frère, Henry? Parfait, je te le jure. Je te le jure, je te le jure.
Enrico Balazar aurait pu le lui dire, mais Roland n'avait pas à apprendre des pareils de Balazar un tel truisme de l'existence. Ne jamais faire confiance à un junkie. D'un signe de tête, il montra la porte.
Jusqu'à la tour, au moins, cette part de ta vie est close. Après, je m'en fiche. Après, tu seras libre d'aller au diable et comme bon te semblera. Mais jusque-là, j'ai besoin de toi.
Ah, t'es un putain de salaud de menteur, fit Eddie avec douceur, sans émotion perceptible dans sa voix, mais le pistolero vit dans ses yeux le scintillement des larmes.
Tu sais très bien qu'il n'y aura pas d'après, ni pour moi, ni pour elle, ni pour Dieu sait qui sera ce troisième type, et probablement pas pour toi non plus. T'as la même putain de touche de crevard qu'Henry sur la fin. Si tu ne lâches pas la rampe sur le chemin de ta tour, tu peux être sûr de le faire une fois que nous y serons. Alors pourquoi me mens-tu?
Une forme assourdie de honte s'installa en Roland qui cependant ne fit que répéter.
Pour le moment du moins, cette part de ta vie est close.
Voyez-vous ça? Eh ben j'ai quelque chose à t'apprendre,
Roland, je sais ce qui va arriver à ton vrai corps une fois que tu auras franchi cette porte et que tu occuperas celui de la dame.
Je le sais parce que c'est tout vu d'avance. J'ai même pas besoin de tes armes, je te tiens par la fameuse barbichette, mon ami. Tu pourras même tourner la tête de cette femme comme tu as tourné la mienne et regarder ce que je fais de ton enveloppe mortelle pendant que tu n'es plus que ton putain de cas.
J'aimerais pouvoir attendre la tombée de la nuit et te traîner au bord de l'eau. Comme ça, tu pourrais vérifier que les homards te trouvent à leur goût. Mais j'ai bien peur que ça soit pas possible. Tu vas être beaucoup trop pressé de rentrer. Eddie marqua une pause. Le raclement du ressac et l'appel de conque soutenu du vent parurent soudain se hisser au niveau du vacarme. « Je pense donc me borner à te trancher la gorge avec ton propre couteau. Et fermer cette porte à jamais. »
Je ne fais que te prendre au mot. Cette part de ma vie est close, dis-tu? Je ne pense pas que tu veuilles seulement dire l'héros. Tu parles de New York, de l'Amérique, de mon époque, de tout.
Alors si c'est comme ça, il n'est pas question que je joue un rôle dans le restant de la pièce. Le décor et les acteurs craignent un max. Il y a des moments, Roland, où comparé à toi, Jimmy Swaggart aurait presque l'air sain d'esprit. D'extraordinaires merveilles nous attendent. « dit Roland. De grandioses aventures. Et plus encore, c'est une quête à poursuivre, une occasion qui t'est donnée de racheter ton honneur. Autre chose aussi, tu pourrais être pistolero. Rien n'exige après tout que je sois le dernier. Tu en as l'étoffe, Eddie. C'est en toi, je le vois, je le sens. » Eddie éclata de rire en dépit des larmes qui continuaient de rouler sur ses joues.
« Génial! Absolument génial! Exactement ce dont j'ai besoin!
Tu sais, Henry, mon frère, il a été pistolero dans un coin qui s'appelle le Vietnam. Ça a été super pour lui. Il aurait fallu que tu le vois quand il piquait du nez pour de bon. Il pouvait plus trouver le chemin des chiottes sans qu'on l'aide. S'il n'y avait personne pour l'y emmener, il restait collé devant la télé et il se chiait dessus. Ah, c'est vraiment le super pied d'être pistolero, je le vois bien !»
« Mon frère en est sorti camé jusqu'à la moelle, et toi t'es complètement jeté. »
« Peut-être ton frère n'avait-il pas une vision très nette de l'honneur ?»«
Peut-être pas, effectivement. On s'est jamais très bien représenté ce que c'était dans les cités. Juste un mot que tu mets derrière « votre » si tu te fais piquer à fumer un pétard ou dépouiller un mec et qu'on te traîne en justice pour ça. »
Eddie se mit à rire alors que pourtant les larmes redoublaient et inondaient ses joues. « Passons à tes amis. Ce type dont t'arrêtes pas de parler en dormant, par exemple, ce Casbert. » Malgré lui, le pistolero sursauta. Toutes ses longues années d'entraînement avaient été impuissantes à réprimer ce sursaut.
« Est-ce qu'eux aussi ont avalé toutes ces salades que tu débites sur le ton d'un putain de sergent recruteur des Marines? Ces histoires d'aventure, de quête, d'honneur ?»
Ils avaient une notion claire de ce qu'est l'honneur, oui, répondit lentement Roland, pensant au disparu.
S'en sont-ils mieux sortis que mon frère d'avoir porté les armes ?
Le pistolero garda le silence.
Je sais ce que tu es, poursuivit Eddie. Des types comme toi, j'en ai croisé des tas. T'es rien qu'un cinglé de plus à chanter, soldat du Christ, avec un drapeau dans une main et un pistolet dans l'autre. J'en ai rien à cirer de l'honneur. Tout ce que je veux, c'est du poulet et un fixe. D'abord du poulet et ensuite un fixe. Donc, je t'avertis. Tu es libre de franchir cette porte, mais à l'instant même où tu seras parti, je zigouille ce qui reste ici de toi. »
Le pistolero continua de ne rien dire. Eddie eut un petit sourire de travers et d'un revers de main essuya les larmes sur ses joues.
« Tu veux que je te dise comment on appelle ça chez nous ?»«
Comment ?»«
Un match nul. »
Un moment, ils ne firent que se regarder l'un l'autre, puis les yeux de Roland se rivèrent sur l'ouverture. Tous deux avaient eu partiellement conscience, Roland un peu plus qu'Eddie, qu'il s'était produit un autre de ces brusques virages, sur la gauche cette fois. Il y avait là un étincellement de joyaux, quelques-uns sous vitrine, la plupart non protégés, ce qui fit supposer au pistolero qu'il s'agissait d'imitation, de ce qu'Eddie aurait appelé du bijou fantaisie. Les mains noires examinèrent quelques pièces, comme ça, en passant, sembla-t-il. Et sur ces entrefaites, une autre vendeuse apparut. Suivit une conversation à laquelle ni lui ni Eddy ne prêtèrent vraiment attention. Puis la dame demanda à voir quelque chose. La vendeuse s'éloigna, et ce fut alors que les yeux de Roland retournèrent se fixer sur la scène. Les mains réapparurent. Elle tenait un sac. Il s'ouvrit. Et les mains soudain s'activèrent, ayant fourni des choses au hasard, apparemment. Non, c'était presque certain.
« Bon, dit Eddy avec une ironie amère, je vois que tu ramasses un bel équipage, t'as commencé par un échantillon de junkie blanc, et voilà que tu récoltes une de ces voleuses à l'étalage noir. »
Mais Roland marchait déjà vers la porte entre les mondes, sans perdre un instant, ne se souciant plus d'Eddy.
« J'ai pas dit ça en l'air !» cria Eddy. « Tu franchis cette porte et je te tranche la gorge ! Je te tranche ta putain !»
Il ne put achever, le pistolero était parti. N'en restait sur la plage qu'un corps flasque animé par la seule respiration. Un moment, Eddy resta là sans réaction, incapable de croire que Roland avait fait ça, qu'il était réellement parti, en dépit de l'avertissement donné, de la putain de promesse qu'il lui avait faite et sincère au possible quant aux conséquences d'un tel acte. Parfait. Parfait, donc. Il n'avait pas l'éternité devant lui pour la mettre à exécution, cette promesse. Tout au plus, le pistolero risquait-il de lui laisser quelques instants, et il en avait clairement conscience. Il jeta un coup d'œil par la porte et vit les mains noires se figer avec un collier doré suspendu au-dessus d'un sac dont l'intérieur scintillait déjà comme les profondeurs d'une grotte où un pirate aurait caché son trésor. Bien qu'il ne pût l'entendre, il devina Roland parlant à la propriétaire des mains. Il sortit le couteau de la bourse du pistolero et retourna le corps inerte qui gisait au pied de la porte. Les yeux étaient ouverts, mais vides, révulsés, ne montrant que leur blanc.
« Regarde bien, Roland !»
hurla-t-il. Ce vent monotone, incessant, imbécile, qui aurait poussé n'importe qui dans les retranchements de la folie, lui sifflait dans les oreilles.
« N'en perds pas une miette ! Je vais compléter ta putain d'éducation ! Je vais te montrer ce qui arrive quand on se fout de la gueule des frères Dean !»
Il amena le tranchant de la lame au contact de la gorge du pistolero.